Merci à l'IMAOV, l'Institut des médecines alternatives et ostéopathie vétérinaire, de sponsoriser cet épisode. Sur cette saison 2, nous avons eu de nombreux invités qui ont enrichi leur pratique avec des médecines complémentaires, ce qui nous démontre que l'attrait pour ces manières différentes de pratiquer la médecine est grandissant. L'IMAOV propose des formations de grande qualité, exclusivement réservées aux vétérinaires, et ce depuis 25 ans. Une formation diplômante en ostéopathie qui prépare au DIE, Diplôme Inter-École Ostéopathie Vétérinaire, mais aussi en acupuncture et également bien sûr en physiothérapie et phytothérapie. Les sessions de formation se déroulent en région parisienne ou lyonnaise, en petits groupes, ce qui permet de consacrer 50% du temps à pratiquer. C'est important aussi de dire que vous pouvez bénéficier d'une prise en charge par l'organisme OPCO-EP ou d'autres organismes comme FIFPL ou France Travail par exemple. Si vous aussi vous avez envie de faire les choses autrement pour soulager l'animal et être dans la prévention, en complément de la médecine allopathique et du curatif bien sûr, je vous invite à consulter le site internet imaof.com où vous trouverez toutes les informations utiles. Merci à l'IMAOV de soutenir ce podcast. Et maintenant, place à l'invité.
Écoutez le monde vétérinaire autrement sur Veto Micro, un podcast produit par Themavet.
Bonjour, je suis Marine Slove, vétérinaire touche à tout, journaliste et fondatrice de Themavet.
Moi, je suis Sophie Ulford, vétote multicasquette, et je me suis fixée comme objectif l'amélioration du quotidien des vétérinaires.
Bienvenue sur la saison 2 du podcast qui donne la parole aux vétérinaires. Vous entendrez ici des consoeurs et des confrères, praticiens ou non, raconter leur parcours professionnel, avec leurs réussites, leurs joies, leurs difficultés et leurs échecs aussi parfois. En se confiant sur une tranche de leur existence et en interrogeant leur quotidien professionnel, ils nous démontrent qu'il y a mille façons d'être vétérinaire.
Nous avons voulu ici nous raconter tels que nous sommes vraiment. Parler de notre rapport au métier bien sûr, mais aussi et avant tout de notre rapport à la vie, à l'animal, à la planète. Ici, pas de tabou, pas de langue de bois et surtout pas de culpabilité.
Vous êtes ici chez nous.
Mais surtout, vous êtes ici chez vous. Belle écoute!
Bonjour à tous et bonjour à toutes. Aujourd'hui, sur Veto Micro, j'accueille vétérinaire Jennifer Blondeau. Bonjour Jennifer.
Bonjour Sophie.
Alors Jennifer, tu es diplômée de l'Université de Liège en 2010 et tu travailles aujourd'hui en Afrique du Sud pour une association qui veille à la protection des éléphants et à leur cohabitation pacifique avec l'homme. L'association s'appelle Elephants Alive. En parallèle, tu fais aussi un master en zoologie et tu es aujourd'hui en deuxième année. Enfin, quand tu as le temps, tu prestes aussi quelques heures pour Appform afin de créer du contenu de formation pour les ASV. Célibataire et sans enfants, tu es également baroudeuse, chanteuse, je précise en voiture et sous la douche seulement, et photographe. Ta mission de vie, œuvrer pour nos animaux sauvages et leurs habitats afin que les générations futures puissent en émerveiller autant que toi. Bravo déjà pour ça et bienvenue sur Veto Micro. Alors, je te propose de commencer par la question traditionnelle, pourquoi vétérinaire ?
Merci Sophie pour l'introduction. Je pensais pas que les petites parenthèses seraient dites aussi, mais bien contente d'être là. Merci pour cette opportunité. Donc, pourquoi vétérinaire ? Au risque de pas être très originale, j'ai toujours aimé les animaux depuis ma tendre enfance. J'avais des grands-parents avec une petite ferme, donc j'ai eu rapidement besoin de ce contact avec l'animal. Et c'est vrai que enfant, le métier le plus proche quand on aime les animaux quand on commence à demander un petit peu aux parents, bah c'est vétérinaire qui ressort. Donc vraiment, c'est un métier qui m'a toujours fait écho depuis petite. Ensuite, en grandissant, je pense que ça s'est renforcé, cet amour pour les animaux sauvages plus particulièrement, certainement au travers de nos écrans télé, grande fan du Roi Lion déjà, de dessins animés, Belle et Sébastien, et puis un peu à l'adolescence, Sauver Willy, enfin voilà, c'était quelque chose en tout cas dans lequel je continuais à m'identifier. Donc voilà, et puis plutôt voilà au lycée, là j'ai alors c'est pas que j'avais je voulais plus être vétérinaire, mais en tout cas j'avais cette envie d'approcher l'animal dans son habitat et pas nécessairement au sein d'une structure médicale. Et donc, du coup, je regardais beaucoup de reportages, Jane Goodall, Ushuaïa Nature, etc. Et c'est vrai que j'ai commencé un petit peu à m'intéresser à différents métiers autour de la biologie animale et m'est venue l'idée d'être éthologue, donc d'étudier plutôt le comportement animal. Donc voilà, ça, vétérinaire, on va dire, a été la première idée et voilà, ça fait un petit peu son petit bonhomme de chemin. Et donc voilà, mais en tout cas, l'animal toujours au centre de mon envie de travailler, en tout cas, voilà.
Très clair. En tout cas, on a les mêmes races, hein. Roi Lion, Belle et Sébastien.
Bon, tant mieux alors.
D'où t'es venue, tu penses, l'idée de cette approche différente? C'est en t'acculturant à d'autres choses dans ce milieu-là?
Je pense que ça a pris du temps. Alors il y avait aussi peut-être quand il est temps de faire un choix d'orientation au lycée, j'étais dans un lycée assez select, donc on a aussi, je pense, un petit peu planté une graine dans ma tête qui était que je serais pas faite pour les écoles prépa, chose que je ne niais pas. J'ai absolument pas l'esprit de compétition et c'est vrai qu'on m'avait dépeint un milieu voilà assez compétitif et que j'appréhendais. Donc je pense que ça a été un chemin intellectuel un peu en parallèle entre des capacités où je me disais bon, c'est finalement vétérinaire, c'est peut-être pas fait pour moi, en tout cas dans les études qui se profilent, et en même temps effectivement l'envie de grands espaces. C'est vrai que j'ai un petit peu voyagé dans mon enfance, et c'est vrai que voilà, appréhender l'animal plutôt sauvage, voilà, dans une clinique vétérinaire, c'était pas forcément l'idée que j'en avais, mais le rapport aux soins me plaisait quand même beaucoup. Donc en fin de lycée, j'ai écouté mes professeurs entre guillemets et je suis partie sur des études de biologie, parce que de toute façon il y avait que la biologie qui me plaisait, avec la biologie dans laquelle j'étais pas trop mauvaise, donc je faisais vraiment une aversion avec les maths et la physique, donc du coup oui, je me suis dit allez, on se réoriente un peu. J'avais pas l'impression de laisser tomber le projet veto pour autant, mais en tout cas parce que je savais qu'en faisant bio il y aurait peut-être des passerelles potentielles pour le concours. Mais en tout cas, voilà, je suis partie sur l'idée de faire plutôt bio, et honnêtement, ça m'a plutôt plu.
Finalement, ces deux années de bio, c'était le bon choix pour toi?
Oui, je pense, parce que déjà d'une part, ça m'a permis de prendre confiance, sortie du lycée, voilà, on rentre dans un système un petit peu différent, et ça m'a bien plu, aborder des sujets même sur la biologie végétale, ça m'a ouvert l'esprit sur d'autres choses. Et ça m'a beaucoup plu. L'autre côté un petit peu moins plaisant, c'est qu'à cette époque, il y a eu justement des manifestations de chercheurs qui manquaient cruellement de moyens pour exercer leur métier dans de bonnes conditions. Et je pense que ça, non, c'est pas que je pense, je suis certaine, ça a fait flipper mes parents que je me lance dans des études longues et pas forcément avec un métier concluant à la fin. Donc là est revenu un petit peu sur le tapis le métier de vétérinaire, puisqu'au détour d'une conversation, mon père a rencontré quelqu'un qui avait fait ses études en Belgique, et donc il m'a dit mais pourquoi tu irais pas faire tes études en Belgique? Parce que évidemment j'ai pas voulu retenter en France, j'ai pas voulu tenter le concours en France, dans le sens où donc c'était un doc de bio que je faisais à l'époque, il y avait que 30 places pour les vétos sur toute la France. Donc là, autant dire que je m'en sentais absolument pas le niveau. Et puis bon, le concours en Belgique semblait moins sélectif, et je me suis dit après tout, je peux toujours le tenter. Et puis on verra bien quoi. Hein. Ça demandait pas une préparation telle que celle en France, donc je me suis dit bon, je me jette à l'eau. Et puis voilà, si je l'ai pas, c'est que je suis sur la bonne voie. Et puis si je l'ai, bah, on commencera à se poser des questions quoi. Donc, du coup, c'est ce qui s'est passé. Je me suis inscrite au concours en Belgique, et puis il se trouve que bah je l'ai réussi, grande surprise. Et du coup, bon, finalement, je me suis pas tant posé de questions ça. J'étais à Marseille, la Belgique me tentait bien quand même à ce moment-là. Donc, je me suis dit, allez, soyons fous et voilà, faut que je saisisse cette opportunité-là. Ça restait un métier rêvé pour moi depuis l'enfance. Donc, voilà, un challenge aussi de quitter la région dans laquelle j'étais. Me plaisait bien aussi. Donc voilà comment Veto est revenu dans ma vie.
C'est pas la première personne qui me dit pendant mes études, pendant le lycée, les profs m'ont fait comprendre que je n'étais pas capable. Comment tu l'as vécu à l'époque? Tu l'as vécu plus comme un challenge, j'ai envie de dire je vais leur montrer, ou plutôt tu t'es dit bah en fait non, bah tu t'es replié sur toi-même? Comment c'était à l'époque?
Non, j'ai plutôt un tempérament on va dire influençable. Je connaissais mes limites aussi, donc le système très compétitif dépeint par les prépas veto, j'étais prête à croire que ça me convenait pas. J'en convenais. Voilà, c'était pas un secret qu'il fallait aussi du coup faire énormément de maths et de physique, et c'était vraiment des matières dans lesquelles je m'épanouissais absolument pas. Donc, avec le recul, je pense que mon système éducatif faut un petit peu plus accompagné. Là où s'il y avait des reproches à faire dans mes choix d'orientation, c'est plus que j'ai un souvenir extrêmement précis de conseillère d'orientation, alors je sais plus, ça devait être peut-être en seconde ou première, où là par contre je viens avec cette idée que je veux étudier le comportement animal et que je veux être éthologue, et là cette personne qui me dit mais ça n'existe pas, là par contre c'était plus une grosse claque pour moi, parce que je pensais avoir enfin défini un projet professionnel qui me correspondait peut-être mieux, en relation avec mes capacités aussi. Et là, par contre, ça a été beaucoup plus dur. Donc, j'avais pas forcément un esprit de challenge, mais quand Veto est revenu, enfin voilà, la possibilité d'être vétérinaire est revenue dans ma vie. Là, par contre, j'avoue que j'avais un petit esprit revanchard. Je me suis repointée à mon lycée et quand je pense que j'étais déjà genre en deuxième année, et j'ai eu l'occasion de repasser à mon lycée. Et là, j'ai dit oui, je suis en études vétérinaires. J'étais contente de le dire, j'avais un petit sourire, un petit sourire aux lèvres, en me disant finalement, c'est pas grâce à eux entre guillemets que le chemin m'a été ouvert, mais bon, j'ai eu une très bonne éducation, enfin j'étais très contente de mon lycée, mais c'est vrai que non, l'accompagnement sur les choix, j'avoue que c'était pas vraiment le lycée et les accompagnateurs qui m'ont aidée. Je pense qu'heureusement aussi que j'avais des parents qui ont cru en mes projets et du coup qui m'ont aussi poussé, parce que non, je suis pas d'un naturel, enfin voilà, les gros challenges, j'avoue que j'ai plutôt tendance à les fuir qu'à les affronter, donc
ouais. Très bien, et bravo d'être retourné par ton lycée. C'est terrible quand même d'anéantir ce qui est finalement des aspirations, des vocations, des rêves de jeunes si facilement. C'est dommage.
Ouais, je trouve qu'avec le recul, je me dis mais comment on peut être dans l'éducation et puis d'avoir des approches aussi brutales sans chercher un peu à construire. Là tout de suite, c'est vrai que ça a détruit beaucoup de beaucoup de choses dans ma tête où pour moi ça y est, j'avais trouvé ma voie et d'un seul coup et vraiment littéralement c'est non mais éthologue ça n'existe pas. Voilà, ça a été la phrase m'a resté vraiment en tête quoi. Donc là, à moi de défendre un petit peu mon projet. Et puis bon, de toute façon, je m'étais dit, je verrais bien aussi, une fois lancé dans le système universitaire, quelle voie j'arrive à affiner, parce que le système universitaire était long de toute façon. Donc c'est vrai que c'est pas en première année qu'on sait exactement comment on va terminer. Mais oui, je suis assez d'accord. C'était assez dur à vivre.
J'imagine. Ceci étant dit, tu arrives à Liège, tu fais toutes tes études à Liège?
Bah oui, je crois que j'avais le choix hein, au tout début, et puis c'est quand même un déménagement de 1000 km, une nouvelle intégration à une nouvelle région, donc je m'étais dit bon, quitte à m'intégrer quelque part, comme il n'y avait qu'à Liège qu'on faisait les trois dernières années, je me suis dit autant aller là où tout le cursus se fait. Donc oui, là encore, la question n'a pas été très difficile. Donc j'ai fait tout le cursus, ouais, à Liège.
Et ça s'est passé comment tes études?
Oh là, génial. je garde des souvenirs, assez mornes de la faculté d'Aix-en-Provence. Enfin, c'était Aix-Marseille 3, ils appelaient ça à l'époque. J'attendais une vie étudiantine, beaucoup plus festive. J'étais quand même vraiment très déçue. pas déçue du voyage, arrivé en Belgique. Même la sensation de dire, je suis là où il fallait que je sois, en fait. Non, c'était 6 superbes années. Comme peut-être beaucoup de Liégeois, pas assez d'assiduité au banc d'école. Avec le recul, je le regrette un petit peu quand même. Je pense que j'ai manqué des jolis cours. Mais d'un point de vue social, sur le plan associatif aussi, ça a été 6 très belles années. Vraiment des belles rencontres, des beaux moments, des beaux souvenirs de vie. Donc, Liège est gravé dans mon cœur à jamais. Ça, c'est une certitude.
Chouette. Et cette partie faune sauvage, alors, qui t'attire, est-ce que elle se réémise rapidement dans ton parcours d'étudiant ou ça revient après?
Oui, toujours dans un coin de ma tête. J'ai la chance aussi d'avoir un père, du coup, qui a été, la chance, on peut le voir de différentes manières, mais à ce moment-là, moi, je l'ai vécu aussi comme une chance. Il a été muté en Afrique du Sud, ce qui m'a donné le droit d'aller le voir. Et du coup de découvrir un bout de l'Afrique j'avais déjà eu cette appétence, je pense encore une fois, merci les médias, les dessins animés, mais oui, j'avais déjà, je sais pas pourquoi, toujours eu cette attirance avec l'Afrique. Donc mes parents, à l'adolescence, avec mon petit frère, nous avaient dit, bon voilà, on peut se payer un beau voyage en famille, où est-ce que vous voulez aller? Et donc moi, ça a été automatiquement, on va aller en Afrique. Enfin, je veux aller en Afrique. Et donc, on a eu la chance en famille de partir au Kenya. Donc, vraiment une découverte de, d'avoir encore la possibilité d'avoir des grands espaces avec une faune très riche qu'on a malheureusement pas beaucoup en Europe, quoi. Hein. Là, tu tournes la tête à droite, à gauche, il y a toujours un animal à regarder. Et c'est vrai que ça m'a jamais quitté. Donc du coup, pendant mes études, j'ai rendu visite à mon père en Afrique du Sud. Et là, je me disais, si j'étais veto là-bas, ça combinerait à la fois cet amour de la faune sauvage et puis en même temps, les études que je suis en train de réaliser. Donc au début, c'était plutôt des voyages. Même avant d'être veto, hein, j'ai fait des petits boulots en Afrique du Sud. J'ai nettoyé les chambres des lodges, fait du bénévolat comme ça, donc ce qui me permettait de vivre dans un beau lodge et puis j'étais pas vraiment payée, mais j'étais nourrie, logée, blanchie, ce qui dans ce contexte là était bien suffisant pour mes vacances d'été. Et du coup, quand je me suis lancée dans le cursus veto, là je me suis dit il faut que je trouve des stages ou des choses à faire là-bas. Donc, c'était en troisième année veto, je crois. J'ai été faire un stage pendant 2-3 semaines avec un vétérinaire qui faisait à la fois de la canine, de la mixte, enfin vraiment tout terrain, le veto, et aussi de la faune sauvage. Donc oui, il a une approche quand même assez fascinante. Lors du choix des deux stages de dernière année, là, j'ai choisi d'aller les faire en zoo, toujours pareil, parce que j'avais cette appétence pour cette approche de la faune sauvage. Donc, sur les zoos, donc j'ai fait un stage au zoo d'Amnéville et un stage au zoo de Houston. C'est toujours fascinant d'approcher l'animal, surtout des animaux qu'on ne peut pas approcher non anesthésiés, typiquement des lions, des ours. C'est extraordinaire de pouvoir toucher ces animaux-là. Et en même temps, à ce moment-là, j'ai pas vu ce métier de vétérinaire de zoo comme une évidence, parce que j'avais eu aussi cette chance de les côtoyer dans le milieu naturel et notamment les éléphants. C'est vrai que ce sont des espèces où c'est un petit peu difficile de les regarder droit dans les yeux dans ces conditions, même si elles sont bien meilleures qu'elles ne l'ont été dans le passé. Et je pense que les conditions des animaux en zoo continuent de s'améliorer. Mais c'est vrai que j'y ai pas vu ma destinée, quoi. Je me sentais extrêmement chanceuse de les approcher, de pouvoir les toucher, de les détailler du regard, du moindre centimètre de leurs yeux, de leurs poils. Voilà, une approche que juste les vétos peuvent avoir, hein. Il y a vraiment, même quand t'es visiteur, toujours une vitre qui te sépare ou une distance. Donc c'est vrai que ça, j'ai beaucoup aimé la proximité avec l'animal, mais j'arrivais pas à trouver du sens. Et par contre, je sais qu'il y a un intérêt énorme sur les parcs zoologiques, puisque j'ai bien conscience que tout le monde n'a pas la chance, comme j'ai pu l'avoir, d'approcher l'animal dans son milieu naturel. Donc je pense que ces animaux en parc zoologique ont vocation à sensibiliser le grand public, et c'est extrêmement important. Mais c'est vrai que par contre, moi, je me voyais finalement pas, je me voyais pas travailler en zoo. Donc, une fois le diplôme en poche, je me suis dit, bon, qu'est-ce que je fais? Parce que là, pour le coup, je sais pas stériliser un chat. je suis pas non plus vétophone sauvage, puisque ça demande quand même encore une formation quelque part. Enfin voilà, pas partir en Afrique comme ça. Donc du coup, je me suis dit je vais quand même approfondir le métier de vétérinaire praticien dans une pratique classique. Et ensuite j'irai voir ce qui se passe en Afrique et qu'est-ce que je peux faire, quoi. Mais oui, pour répondre à ta question, ça m'a jamais quitté. Et en plus de ça, je me suis jamais vue ou imaginée avec un plan de carrière dans une clinique véto sur le long terme. C'est vrai que les années estudiantines ont fait que j'ai pas pris le temps de me projeter dans ma vie professionnelle précisément, mais c'est jamais été une vision que j'ai eue de moi sur le long terme.
Et donc, tu sors de tes études et tu te dis, je vais approfondir le métier vétérinaire canin, du coup?
C'est ça. Du coup, je postule à un internat. J'étais encore, je crois, au zoo de Houston où il fallait que je postule à l'internat. Alors, je me voyais pas postuler aux internats officiels, on va dire, en école véto, etc. Mais en tout cas, je cherchais un tutorat, en fait. Je voulais pas commencer la pratique en étant accompagnée. Je me sentais pas légitime. Je me suis dit, j'ai vraiment trop de retard par rapport aux autres puisque j'avais pas fait mes stages dans ce milieu-là. Donc du coup, j'avais postulé à un internat donc petits animaux et animaux exotiques, enfin tout ce qui était NAC. Et en même temps, il y avait une approche avec les animaux d'un parc zoologique en Belgique. Donc bref, cet internat me plaisait beaucoup et je me suis dit que c'était le bon compromis pour continuer à apprendre quand même les basiques que je n'avais pas. Donc année intense, hein, l'internat, pas se le cacher, c'est compliqué. Les gardes étaient compliquées pour moi, c'était beaucoup de stress, mais heureusement j'avais à la fois des cours internes et puis, des vétos qui nous suivaient, on était toujours parrainés. Et là, pour le coup, ça s'est bien passé. Et du coup, à l'issue de l'internat, j'étais partie pour éventuellement faire des remplats, mais je crois que la clinique Brasseur, il y avait des possibilités d'assistanat, enfin en gros de continuer un petit peu de progresser dans cette clinique là. Et puis, j'avais toujours l'appel de l'Afrique. Et donc là, j'ai dû faire un choix à la fin de l'internat, en me disant, bon, qu'est-ce que je fais? Je suis pas encore une véto praticienne tout terrain, mais est-ce que ce serait pas le moment quand même? Et c'est vrai que comme ça avait été intense, hein, j'avais aussi besoin de partir, de voyager, de voir du pays. Et donc, du coup, après l'internat, je suis repartie en Afrique du Sud, toujours dans le secteur que je connaissais. Et je suis partie faire 5 mois de bénévolat auprès d'une association, alors qui à l'époque s'appelait Save the Elephant. et qui était basée pas loin de là où, en fait, dans des réserves privées, pas loin de là où j'avais déjà fait mes débuts de bénévole à faire les lits des chambres d'hôtel. Et du coup, c'est une association qui étudiait les éléphants. Donc, j'avais bien conscience que c'était pas, j'avais pas encore déployé mes petits talents de jeune vétérinaire, mais je m'étais dit que ça serait déjà une première approche. Et donc, je suis partie là-bas sans trop savoir ce qui m'attendait. C'était en plus, ça se pratique maintenant de plus en plus, hein, c'est des espèces de stages, c'est pas, on peut même pas appeler ça du bénévolat, parce qu'en fait, on paye pour travailler. C'est vraiment l'inverse du système classique. J'ai beaucoup aimé ce que j'ai fait. Des sorties sur le terrain pour aller chercher des éléphants qui ont des colliers satellites. Mais au bout d'un mois, je leur ai dit, je peux pas rester, j'ai pas les moyens de continuer à payer pour travailler pour vous, quoi. Hein. Soit je peux rester, je vous demande pas forcément un salaire, mais soit je peux rester, mais à titre gracieux, soit malheureusement je continue. Et en même temps, je me renseignais sur comment être véto en Afrique du Sud. Et puis, j'ai eu un petit peu une douche froide puisque notre diplôme n'est pas reconnu là-bas. À moins de passer un examen. Encore une fois, je m'en sentais pas capable. Mon niveau d'anglais était encore très 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 moyen, donc j'y voyais vraiment beaucoup de barrières à franchir et je m'en sentais pas capable. Donc je suis restée à la sauce du coup et pendant 5 mois j'ai travaillé pour eux. Donc ça a été une super expérience parce que là on est vraiment plein milieu sauvage quoi, hein. Donc même quand on sort le matin de sa chambre, faire gaffe qu'il n'y ait pas un lion au pied du chalet ou ou un éléphant. Donc j'étais vraiment dans un environnement vraiment bienveillant. La chercheuse principale, on a vraiment bien accroché. Il y avait d'autres étudiants qui venaient aussi, donc c'était une petite vie en communauté en plein milieu du bush, parce qu'ici c'est pas vraiment de la savane, ils appellent ça du bush, donc c'est une végétation un peu plus de végétation qu'une savane, mais beaucoup moins qu'une jungle, hein, donc une espèce de végétation intermédiaire de brousse quoi. J'ai vraiment adoré ces moments-là quoi. Tu discutes, tu prends l'apéro et il y a une hyène qui passe derrière toi. Je me disais mais là ça c'est voilà, si je peux rester là toute ma vie, ce serait top. Et puis bon, forcément, ça peut pas rester comme ça toute sa vie. Donc là, on se repose des questions en disant bon, si je peux pas être véto en Afrique du Sud, je suis pas non plus chercheur, parce que là-bas, c'est quand même beaucoup des chercheurs qui travaillaient. Hein. Je dépannais sur pas mal de missions différentes, mais j'étais pas non plus chercheur. Et c'est là où mes études passées de biologiste, apprenti éthologue ont fait un peu surface en me disant j'aurais pu être complètement dans mon élément. Mais j'étais quand même la véto un petit peu dénudée qui avait pas ses outils pour travailler ni même les autorisations. Donc au bout de 5 mois, je me suis dit tu vas voir que tous les acquis de ton internat tu vas les perdre et il faut rentrer pour pratiquer quoi. Hein. Donc au bout de 5 mois, grand regret, mais il a fallu que je quitte et que je rentre en France. Donc voilà un petit peu pour cette séquence quoi.
Et pendant ce bénévolat, donc tu t'es sorti terrain récolte de colliers, enfin repérage de colliers satellites, c'est ça? Comment ça se passe au quotidien?
Eh bien donc on a, enfin heureusement la technologie est un petit peu avancée maintenant, mais à l'époque certains éléphants l'équipe avait précédemment posé des colliers satellites, il fallait aller les voir sur le terrain. Et donc à l'aide d'une antenne et d'un récepteur, on vient un petit peu chercher sur le terrain on cherche des signaux VHF en fait et on cherche les éléphants. Donc il y a tout un système où faut tourner sur soi-même et puis voir où là où l'intensité sonore est la plus forte. Et puis se guider comme ça. Alors, en plus, il y a plein de petites routes qu'on connaît pas. Donc, il faut se repérer avec un vieux GPS, un truc qui n'a plus du tout à voir avec les GPS d'aujourd'hui. Et puis, après, il faut arriver à rentrer aussi au camp de base. Donc, toujours un peu challengeant parce que j'étais pas forcément accompagnée avec des gens qui connaissaient le terrain. Mais voilà. Mais une fois l'animal trouvé, ben, on passe du temps avec. On voit s'il va bien, on voit si le collier a pas bougé. On prend des photos, on prend beaucoup de photos. Alors ça tombe bien parce que j'adorais ça. Et donc on prend particulièrement des photos de leurs oreilles puisque ils ont un contour d'oreille qui peut être très particulier, en tout cas qui s'abîme au fil du temps et qui devient une espèce d'empreinte digitale et qui en fait un individu à part entière et qu'on arrive du coup à reconnaître au fil des semaines et voire des années. Et on constitue comme ça une base de données avec plus de 2000 éléphants. Mais bon, du coup, voilà, une fois rentré au camp de base, il faut charger les photos et puis ensuite avec des classeurs regarder les dessins des contours d'oreilles, arriver à trouver qui est-ce qu'on a vu sur le terrain ce jour-là et puis rentrer les informations un petit peu de base, sexe, âge, leur activité, leur état de reproduction, est-ce qu'ils ont un petit, est-ce qu'ils sont en rut ou pas. Donc ici, on appelle ça le must pour les éléphants mâles, cette période de reproduction intense. Donc j'ai appris beaucoup, j'ai pu prendre plein de photos et donc c'était vraiment vraiment très intéressant, très intéressant.
Et l'objectif final de ça, c'est la prévention de braconnage ou pas que
Alors, dans un contexte général, non, parce qu'on est dans une réserve qui n'est pas trop touchée par le braconnage de manière générale, en tout cas pas sur les éléphants. L'objectif à l'époque, parce que je vous parle de ça, c'était il y a à peu près 12 ans, c'était plus d'arriver à étudier déjà la démographie et les dynamiques, donc entre les mouvements des femelles, les mouvements des mâles. Et de voir un petit peu, donc on travaillait pour le compte d'une réserve privée, enfin d'une association réserve privée, et donc ils cherchaient un petit peu à savoir combien il y avait d'éléphants de chaque catégorie d'âge, la chasse étant autorisée là-bas. Et donc le but était aussi de voir en gros sur quelle population démographique était prélevable pour les chasseurs potentiellement. Donc non, malheureusement, bien que ça puisse paraître toujours un peu plus louable, le braconnage sur les éléphants dans le secteur où moi j'étais, heureusement, ils en ont pas souffert. Donc c'était plus des recherches, on va dire, un petit peu fondamentales sur le comportement animal de manière générale, et en même temps une présence qui permettait éventuellement de signaler des intrusions, mais très honnêtement, j'y ai pas été confrontée.
Ok, merci pour ces explications. Donc,
avec plaisir.
Au bout de tes 5 mois, tu rentres en Belgique, en France ?
Eh bien, je rentre en France, mais la Belgique, le lien de la Belgique était pas loin, puisqu'en fait, c'est une de mes tutrices de mon internat qui m'avait dit « si un jour tu rentres et que tu cherches du travail, contacte-moi ». Et donc, j'avais justement besoin de ce retour un peu bienveillant, parce que après 5 mois d'interruption, quand on est jeune véto, on se sent encore l'impression de redémarrer de zéro, et j'avais besoin d'être entourée de nouveau par des mentors, et elle en était une, elle en est toujours une, et du coup je l'ai appelée et il se trouve qu'elle était en France, donc du coup elle m'a trouvé une place au sein de la clinique où elle travaillait, et donc retour à la pratique avec tout son lot de stress pour moi, le stress de vouloir bien faire, et puis j'étais dans une bonne région parce que je suis normande d'origine, donc ça m'a ramené là-bas, donc j'ai pu aussi me rapprocher un petit peu de ma famille, de mes grands-parents, etc., ce qui a fait quand même du bien après être partie à l'étranger. Mais toujours pas la sensation d'être exactement là où il fallait que je sois, l'Afrique étant toujours dans un coin de ma tête, mais je rentrais en me disant bon, il faut que tu te fasses la main et puis voilà, peut-être que tu passeras ce concours ou pas. Enfin, mais bon, non, l'Afrique était le chapitre de l'Afrique, je l'avais pas tourné, mais je m'étais fait une raison en me disant bon, maintenant t'arrêtes tes conneries, tes vétos, maintenant faut que tu pratiques et que voilà. Donc j'ai fait voilà, je me suis remis en selle grâce à cette mentor et puis ça m'a redonné confiance en moi et puis du coup bah après j'ai enchaîné les différents boulots, des CDI, des CDD, j'ai fait toujours que de la canine, mais des remplats un petit peu à droite à gauche qui me permettaient bah de visiter des amis du coup, d'aider pour des remplats congé mat, donc aussi de faire un peu de tourisme, hein, de voir un peu la France. Donc c'était plus chaud chouette. Et puis je me suis posée à certains moments de ma vie, notamment dans les Vosges, où j'ai travaillé avec ma meilleure amie. C'était une super expérience. Et puis voilà, mais voilà, arrivé à un âge où tu te dis tout le monde s'associe ou en tout cas commence à faire son nid à un endroit. Moi, je ne tourne pas trouver mon nid et j'ai pas spécialement envie de m'associer, donc il serait temps de se poser les bonnes questions. Et du coup, j'ai commencé à regarder. Donc là, je me suis vraiment mis en mode tu fais que des remplats, parce que s'il y a une annonce, voilà, en tout cas quelque chose qui te permette de bifurquer de la pratique, que tu puisses être disponible assez rapidement. Et j'avoue que voilà, j'encaissais mal les gardes. J'avais vraiment un stress, une espèce de boule au ventre quand même sur mes petits patients à la clinique. Une pratique qui va quand même très vite. Faut être très vite, pas décevoir la clientèle qui est en salle d'attente. Les urgences qui arrivent. Ouais, j'avais tellement envie de bien faire, d'aider les gens, d'aider les animaux, d'être au top, que je me mettais quand même une grosse pression et que finalement je vivais quand même assez mal. Les gardes, c'était pareil. Donc finalement j'ai eu une phase où j'ai fait beaucoup de remplats et ça m'a finalement un petit peu permis de le vivre un peu mieux, parce que voilà je savais qu'il y avait une date de fin et du coup ça me permettait après de ressouffler un petit peu. Et puis du coup un jour j'ai vu passer une annonce, parce que je cherchais quand même des annonces un peu faune sauvage, en tout cas je cherchais des annonces qui changent un peu de l'ordinaire, parce que je me voyais pas rester dans cette pratique très longtemps. Et il y avait une annonce sur du CNITV, donc le centre anti-poison véto de l'école de vétérinaire de Lyon, et une partie du poste dans le descriptif, c'était en gros une participation à des projets de réintroduction de vautours. En collaboration avec la LPO et donc du coup j'ai postulé, parce que cette partie du poste là me faisait un petit peu rêver, et donc du coup j'ai postulé, j'ai été prise, et donc là ça a été pour moi le gros changement de cap, puisque voilà, pour moi je quittais la pratique et je partais sur quelque chose de complètement différent. Donc j'ai beaucoup appris, puisque c'est vrai que la toxicologie c'est quand même un domaine que j'avais pas vraiment exploré pendant mes études ou même au travers de ma pratique. Donc ça c'était plutôt chouette. Et puis j'ai rencontré une deuxième femme super qui m'a du coup introduite, initiée et qui elle est dans le milieu depuis longtemps, a travaillé sur la réintroduction des vautours en France, et donc alors pas forcément joyeux, mais par contre ça m'a beaucoup plu. On faisait beaucoup d'autopsies en fait, pour déterminer les causes de mortalité dans les zones de réintroduction. Donc n'importe quel grand rapace ou vautour retrouvé mort sur des zones de réintroduction, ils atterrissaient chez nous. Et du coup, j'ai beaucoup appris à faire des autopsies d'oiseaux, de grands oiseaux, et des rapports d'autopsie. Et ensuite, on envoyait en analyse toxico. Donc c'était super. Ça a été vraiment. Le problème étant que, en fait, c'était une toute petite partie du boulot qu'il fallait presque faire en fait sur son temps personnel. Mais par contre, je trouvais ça passionnant. Le reste du boulot de centre d'appel téléphonique, là, par contre, était quand même un petit peu plus usant sur le long terme. Par contre, on m'a laissé la possibilité de former les étudiants. Donc là, j'avais aussi la chance de pouvoir un petit peu revoir le système de formation, parce que moi-même ayant suivi cette formation et ayant lu entre 13h et 14h, je m'endormais littéralement. je me suis dit que vraiment, finalement, c'était peut-être pas mal que j'avais pas si souvent en course, j'étais pas très attentive, bah rebelote, alors que pourtant j'avais quand même quelques années de plus. Mais du coup, voilà, j'avais recréé une formation plus interactive avec des cas pratiques. On se mettait tous autour d'une table et on parlait, de cas, comment tu gérais, quelqu'un, un véto t'appelle pour tel symptôme. Enfin voilà, des choses beaucoup plus interactives. Et cette partie formation des étudiants m'a vraiment beaucoup plu. Mais par contre, j'avais un peu ce sentiment de plus être vraiment véto quand je me présentais, quoi. Parce que quand on dit, ah, bah, tu fais quoi dans la vie? Je dis, t'es véto? Ah ouais, tu travailles où? Et du coup, bah, t'es plus dans une clinique, on peut pas venir te consulter. Donc, il y a une espèce de mimique dans le visage des gens qui te fait un petit peu croire que du coup, t'es plus vraiment une véto, quoi. Et c'est vrai que, voilà, la clientèle me manquait pas. Le soin animalier, on va dire, par contre, oui, lui me manquait. Petite pose de caté, une petite chirurgie, tout ça, oui, ça me manquait un petit peu. J'ai eu du mal à assumer. J'ai mis du temps à assumer que si j'étais véto, mais que voilà, c'était pas dans le moule traditionnel, mais j'étais quand même véto, quoi. Donc, mais avec cette expérience professionnelle au CNITV, c'est vrai que voilà, j'ai eu un gros passage à vide qui n'a pas aidé, mais il était vital pour moi que je parte de cette entreprise. Donc voilà, donc j'ai claqué la porte et puis bah après bah il fallait encore se se réinventer.
Donc ta partie CNITV, c'est 2 ans, et avant ça, ta période de remplat, de CDI, tout ça, ça dure combien de temps?
J'ai dû faire 5 ans à peu près de pratique, voilà, entre CDD, CDI,
ouais. Ouais, ok. Et 2 ans.
Un petit peu moins de 2 ans au CNITV, je crois. Non, je sais plus les calculs exacts.
Et tu parles de stress, hein, c'est quelque chose qui revient quand même souvent dans notre métier. Est-ce que tu avais l'impression que c'était un stress qui était plus élevé que vivaient tes confrères, par exemple?
Et oui, c'était bah notamment je l'ai vraiment réalisé au contact de ma meilleure amie avec laquelle je travaillais. Et c'est vrai que ouais, en discutant, moi j'avais une petite boule au ventre le matin qu'elle n'avait pas, par exemple. Alors moi, cette boule au ventre, au début, je l'attribuais quand même un petit peu au phénomène de jeune véto, quoi, hein, où tu te dis bon allez, on va essayer de poser les bons diagnostics, de pas faire de conneries aujourd'hui, d'être efficace, de pas chercher les ovaires pendant 107 ans. Mais clairement, au bout de plusieurs années, voilà, j'avais quand même acquis des automatismes et j'avais je peux pas dire que j'ai eu des mauvaises expériences. J'ai toujours essayé de pas faire d'erreurs. Mais j'étais plutôt hantée, en fait. Je m'auto entretenais un petit peu cette angoisse de me dire, tiens, merde pas, voilà, encore une journée sans merder, c'est bien, quoi. Mais voilà, c'était toujours quand même assez stressant, du coup, cette barre que je me mettais matin, ouais, aller voir ses patients en hospice, espérer que personne soit décédé. Si on a un qui est mort, tu te dis, yes, ça y est, voilà. Premier coup de fil de la journée, j'ai annoncé un décès à des gens sur un animal qui était sous ma garde, mais j'étais pas là. Et ça, j'aimais pas, par exemple. Voilà. J'aimais pas dire j'hospitalise. C'est quelque chose que je vis pas très bien, quoi, de dire voilà, j'hospitalise parce qu'il serait mieux chez vous que chez moi que chez vous. Et alors que je savais pertinemment que je serais pas forcément là toute la nuit. Voilà, c'était des choses, ça, par exemple, je vivais pas très bien. Et ouais, donc c'était quand même assez angoissant, la peur aussi. J'ai un sommeil super lourd, donc la peur de pas entendre le téléphone sonner. Donc je mettais mon téléphone sur haut-parleur, en fait. J'avais 2 enceintes et je branchais ma prise de jack à mon téléphone et je mettais le volume à fond pour être sûr de pas louper un appel. Ce qui rendait pas les nuits très 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 sereines, parce qu'il y avait une espèce de larcène des fois. Dès que le réseau revenait, il y avait une espèce de télé qui revenait. Alors des fois, est-ce qu'il y a un appel qui va arriver ou pas? Non, je vivais ça super mal et ça s'est pas beaucoup calmé. Ça s'est calmé quand même avec les années d'expérience, mais ça s'est jamais vraiment atténué à un point où du coup je me sentais bien, quoi. Donc oui, je pense que je le vivais de manière beaucoup moins bien que la plupart des gens.
Ouais. Et pourtant, tu donnes vraiment sa chance au métier, hein, parce que tu t'aurais pu te dire au bout de 6 mois, 1 an, non, cette anxiété, parce que c'est presque de l'anxiété généralisée finalement, ça me va pas, mais tu persistes quand même 5 ans. Moi, je trouve ça plutôt.
Je sais pas. Ouais, non, mais j'essayais de me faire violence, quoi, en me disant, c'est un métier quand même, t'as choisi, t'as fait des études pour ça. Enfin, j'ai failli même me lancer dans un. pour te dire à quel point je me disais là où tu te sens en stress c'est là où il faut approfondir parce que pour moi on a toujours peur de l'inconnu en fait donc je suis même lancée à un moment donné j'ai postulé alors que je travaillais déjà en pratique j'avais déjà fait un internat général j'ai postulé un internat en chirurgie un grand CHU en France et il se trouve que j'ai été prise et alors que je détestais la chirurgie c'est-à-dire que la chirurgie me faisait stresser par contre moi par contre médecine interne oui chirurgie non. Mais bon, dans la pratique, il n'y a pas le choix. Donc, je m'étais dit, c'est pas normal de stresser autant en chirurgie. Donc, voilà, il faut que tu approfondisses. Donc, du coup, j'avais postulé. Et puis là, c'était même ma mentor qui m'avait récupéré en Normandie, qui m'a dit, mais Jennifer, tu vas pas faire. Elle me dit, tu te souviens ce que c'est l'internat? Elle me dit, je t'ai vu. Tu vas pas te retaper maintenant un internat de chirurgie alors que tu t'es flippé de la vie, quoi. Enfin, en chirurgie. Donc, tu vas pas t'infliger ça. Et c'est vrai que du coup, j'ai renoncé. Bon, ils l'ont pas bien pris du tout. Je m'étais pas engagée, hein. On était vraiment encore dans un timing de discussion, etc. Mais du coup, j'ai renoncé en disant non, c'est vrai que c'est un petit peu de la torture que de se réinfliger ça. Mais oui, des fois, je me dis, faut un petit peu persévérer. Mais là, j'ai renoncé. J'avoue, et je pense que c'était pas plus mal parce que je pense que j'aurais pas tenu le choc.
C'est une approche comme une autre, hein. Il y a la fuite et puis il y a la confrontation, mais je pense que à un moment donné c'est bien de se dire non, peut-être c'est pas pour moi. Je te promets, on va bientôt arriver à l'Afrique, mais je voulais juste savoir est-ce qu'il y a d'autres pays qui t'ont tenté depuis le début ou ça a vraiment été l'Afrique qui était dans tes tripes?
Non, j'ai pas vraiment envisagé d'autres continents parce que du coup l'Afrique est quand même vaste et mais je dirais même que je suis toujours revenue en Afrique du Sud. Je pense aussi par souci de simplicité, puisque ça faisait quand même une paire de fois que j'y étais. Je commençais à connaître du monde, connaître la petite ville à côté, connaître les réserves. Donc il y avait aussi un petit côté facilitant qui était pour moi de revenir au même endroit. Mais c'est vrai que j'aurais peut-être pu explorer, notamment, est-ce que mon diplôme aurait pu être connu dans d'autres pays d'Afrique sans avoir à passer ce fameux examen, mais j'ai pas exploré plus que ça. Je pense qu'aussi, pour avoir suivi quand même des vétos faune sauvage, encore une fois, je m'en sentais peut-être plus très capable non plus. C'est quand même un métier assez physique. Ici, faut aussi bien parler la langue, voire même du coup ici parle l'afrikaans, donc certains clients qui parlent presque pas anglais plutôt que de l'afrikaans. Des fois, il faut être amené à tronçonner un arbre parce que l'animal est tombé dessus et qu'il respire mal. Donc, j'y ai vu aussi un métier extrêmement physique et où du coup, je me suis dit punaise, ouais, chaud quoi. C'est pas uniquement une histoire de l'examen, c'est qu'il faut aussi apprendre beaucoup de choses, parce que là du coup on traite énormément de d'espèces différentes et encore une fois là aussi je m'en sentais pas forcément capable donc j'ai continué à revenir en Afrique mais vraiment en mode finalement un petit peu touriste qui vient revenir qui rend visite à ses anciens collègues. Je repartais des fois avec un petit peu de boulot à classifier certaines photos qu'ils avaient besoin pour les identifications, etc. Mais j'avoue que je courais plus nécessairement après le boulot de veto faune sauvage là-bas quoi. Donc voilà, j'ai fait comme ça un petit peu des allers-retours en vacances, on va dire.
D'accord. Et donc comment se profile la suite? Tu quittes le CNTV? Et puis tu cherches autre chose?
La grosse panique quoi, parce que là du coup j'avais déjà entre guillemets eu du mal à trouver un boulot qui est plus en pratique mais en même temps qui est toujours un boulot de veto. Je me voyais absolument pas travailler pour des firmes pharmaceutiques, j'ai absolument pas de fibre commerciale et puis voilà, là pour le coup c'était vraiment trop éloigné de mes de mes valeurs, de mon rêve de grands espaces. Donc là, je commençais un petit peu angoissée parce qu'il était urgent que je me remette à travailler, parce qu'en ayant démissionné, on n'a rien du tout. Et du coup, j'attendais un petit peu, je regardais les annonces, quelque chose encore une fois qui changerait un petit peu de l'ordinaire. Et je suis tombée sur une annonce pour APFORM, qui cherchait quelqu'un pour écrire des formations pour les ASV, pardon. Et là, je me suis dit, tiens, pourquoi pas, parce que ça a un petit peu fait écho aux formations que j'avais faites pour les étudiants veto qui voulaient faire des gardes au centre antipoison. Et c'est vrai que ça m'avait bien plu. Donc j'ai passé le processus de recrutement et j'ai été prise. Donc là, il se trouve que c'était Aix-en-Provence, donc retour aux sources dans le sud. Donc ce qui n'était pas pour me déplaire non plus, hein, la région est loin d'être désagréable. Et puis au fil des mois s'est profilé la libération d'un poste sur créer des modules e-learning toujours pour les ASV et du coup j'ai appris ce métier là en fait parce que j'avais pas de compétences particulières à la base et alors je suis loin d'être ingénieur pédagogique mais c'est vrai que voilà j'ai quand même été bien formée. Une autre femme extraordinaire qu'a croisé mon chemin et qui m'a formé à la pédagogie et c'est vraiment super parce que je trouve que c'est aussi pouvoir rendre un petit peu j'ai pas le meilleur exemple parce que j'ai pas été très assidue au cours mais le format a été franchement compliqué à tenir et justement je voulais pas faire subir ce format que je trouvais très descendant de l'enseignement et donc le format e-learning m'a permis justement d'avoir des outils interactifs et beaucoup plus ludiques pour capter l'attention des apprenants quoi. Et ça j'ai trouvé ça du coup super génial. Donc je me suis auto-formée ces logiciels un peu créatifs quoi. Et du coup je suis devenue chef de projet en formation e-learning pour les ASV à APFORM. Et je me suis éclatée. Franchement, je me suis éclatée, j'ai retrouvé une ambiance d'équipe parce qu'on était plusieurs vétos dans le service ingénierie. Une super ambiance qui m'avait un petit peu manqué à l'époque où je travaillais aussi en pratique j'ai toujours eu des super bons collègues et des gens avec qui je me suis super bien entendue donc ça c'était vraiment super et puis aussi des conditions de travail au top donc j'ai passé 4 superbes années quoi franchement, et ce qui explique que je travaille toujours encore pour cette entreprise parce que je me suis découvert un métier que j'aurais jamais imaginé faire avant et qui reste encore ancré quand même dans ma pratique où je pouvais quand même continuer d'explorer et même des fois de gratter des sujets sur l'hygiène des choses que j'avais pas forcément pris le temps en tant que veto praticienne d'approfondir alors c'est vrai qu'on n'est pas sur de la formation vétérinaire donc on va pas approfondir tout ce qui est pathologie mais ça se rapprochait quand même beaucoup de la pratique et d'avoir justement eu 5-6 années de pratique m'a beaucoup aidé à cette partie de devoir reconstruire des cours pour les ASV donc ça c'était vraiment une super période de ma vie et toujours en contact avec l'Afrique malgré tout où là j'ai pu y retourner plus régulièrement et puis forcément là ça retravaille quoi ça retravaille au corps et ça retravaille d'autant plus parce que du coup je m'étais fait quand même des amis là-bas et notamment une amie qui est tombée gravement malade et à un moment donné de réaliser qu'il y a des choses qui empêchent vraiment d'avancer des maladies comme le cancer et puis il y a des choses qui empêchent d'avancer mais que c'est uniquement dans ta tête et c'est vrai que du coup malheureusement pour elle mais sa mauvaise expérience m'a fait réaliser que des fois faut pas attendre trop longtemps et qu'il y a des fausses excuses et donc du coup le projet Afrique là il s'est réenclenché Je suis partie du coup, ils m'ont proposé de les d'accompagner. Enfin, une partie de l'équipe partait au Mozambique poser des colliers sur des éléphants. Ils y allaient en tant qu'experts. Ils m'ont dit, tu viendrais pas avec nous, comme ça, ben, ça te, voilà, ça te change un petit peu de tes séjours habituels parmi nous. Donc, bien sûr, j'ai sauté sur l'occasion. Ça a été 15 jours extraordinaires dans un pays que je connaissais pas du tout. Donc, voilà, à plus être là en tant que spectatrice, encore une fois. Bon, j'ai aidé à la récolte des échantillons, prélever, voilà, du lait sur des femelles lactantes. On prélevait, des crottes, on prélevait, enfin voilà, donc il y avait quand même une petite partie qui me ramenait à ma passion première quand même de véto. Et puis ben là l'équipe m'ont dit il y a une des filles de l'équipe qui allait partir, son mari elle allait expérimenter l'Australie, et elles m'ont dit tu voudrais pas prendre sa place. Et donc bah ben là ça a commencé, là je suis rentrée en me disant oui, c'est ce que j'ai envie, quoi. Même si c'est pas un boulot de veto que je vais faire, même si c'est pas non plus un boulot de chercheur, parce que je suis pas chercheur, mais je crois que j'aimerais vraiment bien, quoi. Donc, j'avais plein de choses qui m'en empêchaient. Donc ça a mis un moment à mûrir, hein. Notamment, j'avais acheté une maison avec un crédit. Donc tu te dis, voilà, il faut payer le crédit à la fin, et c'est pas avec le salaire sud-africain qu'on allait me verser que je vais pouvoir continuer à verser. Enfin, à payer mon crédit en France. Donc, mais bon, finalement, on a mis la maison en location, et puis du coup, cette chaîne-là qui m'empêchait a sauté. Et puis voilà. Puis cette maladie de mon amie avec qui j'étais au Mozambique. Déjà, d'une part, j'avais envie d'être près d'elle. Et puis de deux, je me dis ouais, t'es vraiment pleine de fausses excuses, quoi. Hein, j'ai entamé cette démarche, alors non sans mal, parce que même une fois que tu as pris ta décision en disant oui, j'y vais, fallait envisager quelle stratégie pour que j'ai un visa et que je puisse légalement travailler en Afrique du Sud. Et en gros, ce qui ressortait de différents entretiens avec l'immigration, c'était pars avec un visa étudiant, tu t'inscris à des cours et c'est ce qui te permettra d'avoir le visa le plus simple. Sauf que là, au début, je me dis merde, j'ai pas vraiment envie de repasser par la case étudiante, c'est quand même un statut assez précaire de nouveau. Enfin bon, je me dis je lâche tout, et là pour le coup, je lâchais aussi un boulot qui me plaisait, et j'étais bien payée, ou qui me permettait de partir en vacances, qui me permettait de dormir sereinement le soir, j'étais plus stressée par les gardes. Enfin voilà, tout ça faisait que. Mais bon, voilà, à un moment donné, je me suis, pour la faire courte, pardon, je me suis dit, allons-y, puisque si le visa étudiant est ma seule option, allons-y. Et du coup, l'étude en question m'a été proposée par toujours cette chercheuse, qui est ma patronne à l'heure actuelle, que j'avais rencontrée déjà quand j'avais fait mon bénévolat là-bas, m'a proposé, puisqu'en fait, l'avantage quand même, c'est que si tu t'inscris à un master en Afrique du Sud, les masters en sciences, ce sont en fait des mini-thèses. Tu retombes pas sur les bancs de l'école à devoir rester à l'université. Donc en fait, il faut que tu aies un projet d'études, et tu as 2 ans pour le mener. Donc là, pour le coup, ça me convenait quand même beaucoup mieux, parce que ça me permettait du coup d'être en pleine brousse là où l'équipe se trouvait, et puis de faire ce master à distance qui du coup me permettait légalement d'être dans le pays. Donc voilà, quoi. Donc du coup, il a fallu annoncer ça progressivement à tout le monde. Compliqué, pas mal de moments de doute, hein. C'était loin d'être linéaire, hein, émotionnellement parlant. Ma meilleure amie, merci à elle, à ma famille aussi. Des fois, j'ai dit non, mais attendez, je pars pas. C'est pas possible. C'est vraiment débile. J'ai une vie géniale que beaucoup de gens m'envieraient. Pourquoi partir? Je perds la sécurité, quand même, du soin médicaux, hein, tout ça, c'est des choses. Et quand on a une amie qui est atteinte d'un cancer, c'est des choses qui font quand même aussi réfléchir, en disant, mais s'il m'arrive une merde, je vais quand même un petit peu au casse-pipe. Mais bon, voilà. Et à un moment donné, ma meilleure amie m'a dit, non, mais bon, Jenny, maintenant, tu vas arrêter de nous saouler. Ça fait 15 ans que tu nous parles de ce projet-là. T'as l'opportunité, maintenant, t'y vas. Et puis, si ça se passe bien, tu rentres. Et j'ai dit, oui, t'as raison, allez. Go feu, on y va. Donc du coup, après aussi des péripéties de visa, parce que sinon c'est pas drôle, mais je suis arrivée, on va dire, en Afrique du Sud au mois de février 2023. Et pour l'instant, j'y suis toujours.
c'est dingue, hein, parce que la vie nous met sur notre route. pour à la fois nous aiguiller et à la fois nous tester pour être sûr, pour qu'on soit sûr à 100% que c'est la bonne. Voilà, c'est pas évident. Hein. Effectivement, ça engrange un branle-bas émotionnel qui peut être assez assez difficile parfois.
Ouais, des fois c'était vertigineux et en même temps, des fois, ma famille, mes amis me ramenaient à la raison en me disant mais tu risques quoi, sérieux. Et c'est vrai que mine de rien, ce boulot de veto. Même si aujourd'hui je me verrais pas du tout reprendre la pratique, mais mine de rien, il assure quand même une espèce de statut qui dit non mais c'est vrai que si je rentre demain en France, je pense que je trouverai du travail avec ça sur mon CV, je trouverai du travail. Et je pense que ça m'a donné aussi cette force de me dire bon bah vas-y, peut-être que ce sera un tour d'essai puis tu rentreras à la maison et ou pas. Mais en tout cas, à un moment donné, ce qui m'a nourri, c'est de me dire je pense que vous l'avez bien deviné depuis le début que je parle, c'est un projet qui m'a nourri depuis longtemps et je voulais pas vivre avec des regrets, quoi. Je me suis dit allez, tu vas avoir 70 ans d'ici quelques temps, est-ce que tu as envie d'avoir toujours cette question qui plane au-dessus de ta tête. Et en fait, j'avais affreusement besoin de répondre à ça en me disant j'avais peur de me dire finalement tu t'es jamais lancé, tu as eu la frousse et ça se trouve tu es passé à côté de quelque chose dans ta vie. Donc voilà, j'ai pas forcément de leçon à donner, mais c'est vrai que j'avais surtout besoin de me dire bon bah voilà, je vais le faire. Je savais que les attentes, j'ai encore redémarré au bas de l'échelle. L'anglais c'est pas encore courant. On est quand même des grands communicants, je trouve, les Français, et c'est vrai que ça peut être très frustrant de pas arriver à nuancer tes phrases, etc. Donc je me mettais plein de barrières. Mais finalement je me dis faut y aller, quoi. Faut y aller et puis finalement ça se passe pas si mal.
Bon, bah, très bien. Donc t'as détruit ces barrières à coups de hache et ça y est, t'y es. C'est Elephants Alive, hein, que ça s'appelle. Peut-être pour commencer, peut-être dis-nous-en quelques mots.
Bah du coup c'est toujours la même assoce, hein. Ouais. Je suis quand même assez fidèle au poste. C'est la même assoce mais qui a changé de nom. Et du coup alors leur projet, leur mission aussi évolue au fil du temps. On était sur plutôt de la recherche fondamentale, si je puis dire, quand j'y étais en tant que bénévole, il y a de ça 12-13 ans. Aujourd'hui, ils travaillent beaucoup plus avec des communautés locales. Puisque aujourd'hui, on va dire qu'en Afrique du Sud, la plus grosse menace, on l'a abordé un peu tout à l'heure pour les éléphants, n'est pas le braconnage, c'est plus la menace, on va dire, d'un manque d'espace, du coup des animaux qui vont au-delà des zones protégées et du coup qui, alors peuvent effectivement, suivant les zones, peuvent se faire abattre par des braconniers, mais ici c'est plutôt de l'abattage par sécurité pour en gros pas qu'il y ait d'animaux sauvages en dehors des réserves et que ça n'occasionne pas d'accidents avec les populations. Donc aujourd'hui la mission principale, il y a toujours un fort socle de recherche, donc on a toujours j'y contribue d'une certaine manière avec mon master. On a des étudiants qui font aussi leur doctorat, donc ils viennent de temps en temps, quelques semaines, quelques mois ici, récolter leurs données, et puis ensuite ils partent pour analyser tout ça. Donc il y a quand même un fort socle de recherche qui est vraiment un des piliers de l'association. Et aussi du coup maintenant un gros travail avec les communautés locales. Alors il y a des beaux programmes, hein, comme ils appellent ça le Go-Go Program. C'est en gros ils amènent les grands-mères. Il y a quand même peu de gens en Afrique du Sud qui vivent, des gens, on va dire, des locaux, hein, noirs, qui ont la chance de vivre dans des zones de faune sauvage complète. Généralement, les villages ont été mis en dehors des réserves, en bordure, voire même en bordure. Et du coup, les gens, les Sud-Africains n'ont pas forcément la chance, en fait, de voir des éléphants dans leur vie. Et donc, du coup, là, le but de ce programme-là, c'est d'aller chercher ces grands-mères qui du coup sont un petit peu coupées de la société parce qu'elles ont vocation à rester dans leur village et à s'occuper des petits enfants et du coup de leur amener ce contact avec la nature. Donc on les emmène pendant 3 jours dans une réserve où elles sont un peu traitées comme des princesses. voilà, on leur offre des couvertures, il y a des partenaires qui font en sorte qu'elles aient plein de belles choses à ramener à la maison. Et du coup, alors pour beaucoup, c'est la peur, hein, quand elles voient le premier éléphant, elles en ont pour certaines jamais vu de leur vie. Et voilà, et j'ai des collègues qui parlent leur langue locale, parce que l'anglais reste un langage courant, mais quand même très limité. Et donc du coup, qui leur apprennent, et au bout des 3 jours, voilà, on a des grand-mères qui ont une approche complètement différente, qui vont aussi reconnaître des plantes qu'elles ont vues quand elles étaient petites filles, voilà, et du coup de leur attrait médicinal, enfin voilà. Donc c'est un joli programme. Et il y en a plusieurs comme ça, puisqu'en fait, du coup, le souci, c'est que ces grands aires protégées, il n'y a pas beaucoup de maintenance au niveau des clôtures, ce qui fait que l'éléphant est plutôt massif. Donc lui, en général, s'il peut passer par-dessus une clôture, il le fait. Et donc, du coup, on a quand même beaucoup de communautés en bordure de réserve qui souffrent, hein, de la présence des éléphants, parce que l'éléphant, il peut en une nuit ravager un champ de maïs, et que ce champ de maïs, c'était leur revenu alimentaire pour des semaines. Donc du coup, on travaille sur des moyens pacifiques, on va dire, hein, de protéger les cultures des gens et de garder les éléphants à bonne distance. Donc il y a un projet en Afrique du Sud et aussi beaucoup en Mozambique. Parce qu'en Mozambique, il y a très peu de clôtures, donc en fait, les animaux sont quand même beaucoup en dehors des réserves. Et beaucoup de pauvres gens, voilà. Et donc l'idée, c'est que, parce qu'en général, les gens veulent pas tuer un éléphant sous prétexte qu'il a mangé la culture, mais ils veulent arriver à bien vivre en fait avec la faune sauvage. Ils voudraient en avoir les moyens. Donc c'est ce que l'association essaye de faire. Donc je trouve que c'est une belle association. Donc moi, dans tout ça, j'aide un petit peu partout. J'essaie de faire mon master, bien évidemment. J'ai pas de mission, on va dire, bien précise. Je sens que c'est encore, j'essaie de faire ma place. Je suis très bien accueillie. Je suis utile, je pense, à plein de moments. Mais c'est vrai que difficile pour moi de vous décrire exactement ce que je fais. J'ai pas un poste bien défini. Je vais là où on a un petit peu besoin de moi. Et ça peut être, par exemple, elles se font rares, mais les poses de colliers, hein, on renouvelle les colliers GPS de nos éléphants. Donc là, il faut organiser toute la logistique, les permis, les vétos, les hélicos, etc. Donc, j'aide à tout ça. Bien évidemment que je me fais un plaisir de récolter tous les échantillons quand l'animal est anesthésié. Ça reste mon petit moment petit véto, apprenti véto faune sauvage à ce moment-là. Et puis voilà, il y a du coup on a une banque d'échantillons que je tiens à jour. J'accueille aussi pas mal les étudiants qui viennent nous voir. Je les emmène du coup sur le terrain en fonction de ce qu'ils ont besoin d'observer, de récolter, etc. Donc voilà un petit peu le quotidien. Et alors là où on vit, je vis dans un super beau cadre avec une superbe rivière, mais il n'y a pas d'éléphants. Mais par contre, on a le bureau qui est à 5 minutes à pied et voilà, c'est belle équipe, beaucoup de chercheurs. Il y a des beaux projets. Alors c'est l'Afrique, tout. J'apprends à ce que tout prend du temps. Même les nouveaux projets qui semblent se dessiner rapidement, tout prend du temps ici. Donc j'essaye aussi de faire preuve de patience, mais je suis parfaitement intégrée à l'équipe. Et c'est vrai que voilà, j'aspire peut-être un jour à avoir un poste encore un peu plus défini, mais et je pense qu'il faut laisser le temps au temps, quoi. Et à mon anglais de se parfaire aussi.
Et il y a combien de personnes au total dans l'asso? Vous êtes, je suppose qu'il y a des bénévoles, des rémunérés.
Alors, on n'a plus beaucoup de bénévoles. Ça a été aussi un choix de l'association parce que souvent les bénévoles sont là pour des vraiment courtes durées, donc ça demande quand même pas mal de temps pour les former. Et donc, on a plus des étudiants en master ou en doctorat qui viennent, mais on va dire que l'équipe, on doit être une quinzaine de personnes au total. Donc, ça va du marketing, à la personne qui s'occupe justement des programmes avec les gogos, avec les gens locaux. On a un de mes collègues, il est en train de terminer son PhD. On a un autre de mes collègues qui est vraiment un expert de reconnaissance d'éléphants sur le terrain. Donc voilà, et ouais, je crois qu'on est 12 exactement, mais pardon, j'ai pas fait le compte exact. Vous pouvez voir sur le site internet, il y a l'équipe, je crois,
pour avoir une idée. Et en termes de soutien au niveau des fonds, c'est quoi? C'est des mécènes, des groupes?
Bah ouais, c'est ce que j'apprends aussi. J'essaie d'être un peu le bras droit de la patronne, en gros, et qu'elle m'apprend, parce que c'est là, pour le coup, c'est très complexe, hein, à gérer. Donc c'est beaucoup de levée de fonds, hein, des demandes de subventions. Nos sponsors les plus importants sont américains. Donc en gros, il faut décrire des projets, et puis ensuite, voilà, on a des fonds qui se débloquent pour 2-3 ans, mais c'est une recherche perpétuelle de fonds, surtout que pour payer les salaires, en général, c'est très compliqué, quoi. Autant on peut avoir des fonds, par exemple, pour payer des panneaux solaires, trouver une pompe pour gens, pour avoir une réserve, enfin, pour pomper de l'eau, pour des objets, des projets bien particuliers, mais le temps des employés à consacrer à tout ça est compliqué. Et donc aujourd'hui, voilà, c'est surtout par des sponsors américains, voilà, mais des gros services, hein. Donc c'est des gros processus pour les levées de fonds. Ma patronne est vraiment plutôt douée là-dessus. En tout cas, elle a aujourd'hui des sponsors avec qui la suivent depuis 15 ans, quoi. Hein. Donc c'est quand même plutôt chouette. Maintenant, on est toujours très dépendant aussi de la politique, et c'est vrai que voilà, on se sent jamais en tant que NGO, on n'est jamais vraiment complètement en sécurité, parce qu'on dépend toujours des fonds souvent de pays étrangers, puisque d'un point de vue gouvernemental, ici, il y a rien, hein, il y a aucune aide. Donc voilà, avec les contextes politiques qui sont très fluctuants, voilà, c'est toujours beaucoup de stress pour arriver à garder les salaires de tout le monde, quoi.
Ben, c'est un vrai sujet, ça, hein, cette histoire de salaire, quand on est dans le domaine animalier. Je vais pas faire une grosse digression, mais c'est vrai que le point de vue général est que ça devrait être du bénévolat, parce qu'on aime les animaux, parce que c'est du care, c'est souvent ça qui revient, en fait, hein.
Oui, et puis même dans ma pratique, c'est toujours un peu compliqué, hein, cette approche tiers des devis sur un animal, un chat boucher, et de savoir qu'on peut sauver l'animal et que derrière les personnes peuvent pas, et du coup qui comprennent pas que, mine de rien, c'est de l'argent pour la clinique vétérinaire, c'est beaucoup d'investissement pour se permettre justement de faire des analyses, etc. C'est vrai que ça, c'est quelque chose qui m'a pesé aussi, moi, dans ma pratique. Sentiment de culpabilité d'avoir, en fait, la capacité dans tes mains de pouvoir faire les choses, et d'avoir, en gros, d'attendre de l'argent pour pouvoir le faire, alors que je pense vraiment pas qu'on ait une profession vénale. Je pense que si on était des gens, hein, qui aspiraient à gagner beaucoup d'argent, ce qui n'est pas une critique, hein, mais je pense qu'on se serait orienté vers des carrières vraiment différentes, parce que au prorata du temps passé, je pense que voilà, c'est mais c'est vrai que là, ça poursuit un petit peu dans ce contexte là. J'avoue que j'ai des idées qui trottent dans la tête, parce que là, je vois passer, je suis sur un groupe WhatsApp ici de deux vétos qui travaillent du coup dans la ville à côté de là où j'habite, très bon véto, eux uniquement, hein, faune sauvage, et du coup, quand il y a beaucoup de collets, hein, donc le problème ici, c'est le braconnage, est présent sur des espèces plus petites. Mais c'est souvent un braconnage où, voilà, ils posent des pièges, et malheureusement, on retrouve des animaux avec toujours en vie, mais avec le piège coincé quelque part autour du cou d'un membre. Et donc, comme il y a quand même une présence touristique assez importante, il y a souvent quand même des personnes qui informent. Et du coup, je vois passer au travers de ces groupes les vétos qui, du coup, cherchent des fondations qui veulent bien les payer pour qu'ils puissent intervenir, puisqu'ils peuvent pas faire. Alors, je suppose qu'ils en font des fois à titre gracieux, hein, mais ça, c'est un sujet commun, même ici, hein, effectivement.
C'est un mindset, un état d'esprit, en fait, hein, qui a changé et qui est finalement international.
Ouais, complètement.
L'équivalence, j'y reviens. Est-ce que c'est quelque chose qui te... L'équivalence vétérinaire, je te parle. Est-ce que c'est quelque chose, du coup, qui revient sur le tapis pour toi?
Je l'ai aussi dans un coin de ma tête, mais pour l'instant, non. Pour l'instant, non. Bah déjà, faut impérativement que je passe ce master. Et j'avoue que je suis toujours plus appelée par l'opérationnel que de m'asseoir derrière mon ordi pour travailler à ça. Donc là, j'ai 6 mois qui vont s'avérer assez critiques puisque mon futur visa dépend de l'obtention de mon master. Donc du coup, j'occulte pour l'instant l'examen veto parce que là, ça peut pas rentrer dans mes journées. Mais je m'interdis pas. Je me l'interdis pas. Je me dis peut-être que voilà, une fois que j'aurai le master, que j'aurai un visa, que je suis sûre de rester là, parce qu'on n'est jamais sûr non plus complètement. Je me dis ouais, pourquoi pas. L'anglais, je pense qu'à ce moment-là, sera plus du tout une barrière pour moi. Ce sera plus du tout un effort, pas forcément une barrière, mais c'est un effort quand tu lis, ça reste quand même un effort encore intellectuel pour moi à faire. Et du coup, je me dis pourquoi pas, mais voilà, je me dis je verrai déjà une fois le master. Je me l'interdis pas. Je sais pas si je ferai veto faune sauvage un jour, mais ouais, je le garde dans un coin de ma tête. Je le garde dans un coin de ma tête. Je me l'interdis pas.
Ton master, ta thèse, c'est sur quoi? Rappelle-moi.
Donc en fait, j'étudie un écoulement qui se manifeste au niveau des oreilles des éléphants. Donc ils ont des glandes temporales entre les yeux et les oreilles. Donc cette glande, elle sécrète en cas de stress ou en cas de période de reproduction pour les mâles. Et du coup, on s'est aperçu qu'il y avait un autre écoulement, donc vraiment qui sort du canal de l'oreille et qui a vraiment été très très peu décrit dans la littérature. Et donc on m'a proposé de faire une étude là-dessus. Donc c'est assez intéressant pour moi parce que ça amène un peu à l'anatomie, à la physiologie. Donc c'est bien parce que ça me permet quand même de raccrocher un petit peu ma casquette veto. Et je trouve vraiment la recherche super intéressante. Donc en gros, j'étudie tout un lot de photographies qui ont été, parce que du coup, comme je vous disais, on prenait des photos depuis, ça fait 25 ans que les photos sont prises des oreilles des éléphants pour arriver à les identifier individuellement. Et comme il se trouve que moi, du coup, je vais chercher quand est-ce que ces sécrétions apparaissent, bah, du coup, ça tombe bien parce que c'est exactement le type de photo dont j'avais besoin. Donc là, je fais une étude rétrospective sur 15 ans. Sur du coup ces sécrétions d'oreilles pour arriver à déterminer dans quel contexte ça apparaît. Donc on suspecte que c'est dans un contexte de stress, mais du coup voilà, je vais étudier si c'est chez les mâles, chez les femelles, s'il y a des catégories d'âge, s'il y a des phases plutôt en reproduction, si c'est un contexte particulier de saisonnalité, de choses comme ça. Je découvre aussi le monde de la recherche là pour le coup. Il faut demander beaucoup de permis pour étudier les animaux sauvages. Parce que là, en l'occurrence, l'intérêt serait quand même d'aller disséquer cette partie de l'oreille, du canal auriculaire, parce qu'en fait, il n'y a jamais de glande qui a été mise en évidence. Et donc, du coup, là, je suis en train de demander des permis pour aller potentiellement disséquer cette partie de l'animal et d'envoyer en histologie pour voir si on découvre quelque chose. Donc non, c'est plutôt plutôt très intéressant. Franchement, j'ai un sujet qui colle quand même, qui me ramène quand même un petit peu à ma casquette de veto et c'est plutôt sympa.
Ouais, bah ça a l'air. Et les éléphants, qu'est-ce qui t'attire, qu'est-ce qui te fait vibrer dans cette espèce?
Alors, je dirais que c'était pas forcément un choix. Délibéré. J'ai au fil des contacts que j'avais eu en Afrique, on m'a dit ah mais pourquoi tu contacterais pas cette asso, ils étudient les éléphants. Bon franchement il y a pire comme espèce à étudier. Et du coup plus je les ai étudiés, plus je me suis vraiment intéressée à cette espèce. Si tu me demandes est-ce que c'est ton espèce préférée, j'aurais du mal à répondre très honnêtement. J'aime ces animaux qui ont cette forme d'intelligence que peuvent avoir les éléphants, que peuvent avoir les orques, que peuvent avoir les gorilles par exemple, espèce de d'humanité. L'éléphant, voilà, ils se reconnaissent entre eux, ils se reconnaissent eux-mêmes. ils comprennent quand un des leurs est décédé, ils viennent se recueillir sur des os de leur famille. Donc enfin voilà, plus on creuse cette espèce là plus je trouve que c'est vraiment une espèce fascinante. Si j'avais eu l'opportunité d'une autre espèce, j'aurais probablement saisi cette même opportunité, parce que voilà, et il se trouve qu'en plus l'éléphant est une espèce d'espèce parapluie, quoi. C'est-à-dire que si tu protèges l'espace dans lequel est l'éléphant, il se trouve que du coup tu protèges toutes les espèces quand même qui l'entourent, et pour le coup c'est une faune hyper riche ici en Afrique. Donc et ce qui est encore plus fascinant, c'est que c'est quand même une espèce qui est quand même très étudiée. Il y a beaucoup d'articles, c'est une espèce charismatique, et pour autant il y a encore des choses à apprendre, notamment au travers de l'étude que je fais. Je savais pas par exemple que l'éléphant était en capacité de pouvoir fermer son conduit auditif volontairement. Donc je trouve que c'est une espèce fascinante que j'ai la chance d'approcher, mais j'ai un intérêt j'ai un intérêt multiple pour le petit insecte qui vient boire les gouttelettes d'eau sur sa peau, parce que l'éléphant a une espèce de transpiration transdermique assez particulière, et des fois on trouve une petite chenille qui vient boire sur le dos d'un éléphant. J'aime cette approche générale et complète. On étudie, mon collègue par exemple fait son PhD sur les vautours, puisqu'en gros on accusait quelque part les éléphants d'avoir un impact sur les grands arbres et du coup sur la nidification des vautours. Donc on n'est pas à la sauce complètement fermée et focalisée sur l'éléphant, et je trouve que c'est chouette aussi, quoi.
Très chouette. Du coup, je peux pas te demander si tu avais une espèce à choisir, laquelle tu choisirais, tu pourrais pas me répondre, quoi.
Eh ben non. Mais non, puis en plus je trouve que c'est très limitant, quoi.
Ouais, c'est réducteur.
Moi ce que j'aime justement, c'est pouvoir aller dans la réserve et d'avoir la chance de ne pas voir que des éléphants, quoi. C'est du coup de dire tiens, peut-être qu'aujourd'hui je vais voir un rhino, je vais voir un lion, je vais voir un léopard. Bien sûr, je cite pas les antilopes parce que les pauvres, on les voit tellement, mais pareil, c'est même les impalas qui sont les antilopes les plus répandues ici. Si tu les regardes de près, c'est une vraie sculpture, quoi. Elles ont des pattes d'une finesse. Une robe, c'est vraiment vraiment joli. Donc c'est ce que j'aime et ce que je crois que j'ai aimé dans l'Afrique, c'est la richesse en fait de la faune et de la flore. Au-delà de cette espèce charismatique et pour laquelle je suis super contente d'étudier, parce que je trouve que c'est une espèce malheureusement qui demande encore à être défendue, parce que même si aujourd'hui on est plus focalisé sur le braconnage des pangolins et des rhinos, ces deux espèces sont extrêmement en danger ici aussi. Donc on va dire que l'éléphant est pas dans cette crise, on va dire, actuelle. Néanmoins, je découvre qu'en Afrique du Sud, elle a besoin d'être défendue, parce que par contre en Afrique du Sud, on reproche aux populations d'éléphants d'être trop importantes. Et donc il y a beaucoup de chasseurs ici, et du coup ce sont des animaux qui sont très facilement abattus. Et c'est vrai que c'est un crève-cœur, parce que quand on comprend l'espèce, quand on comprend la dynamique entre les individus, ce sont des familles qui vivent toute leur vie ensemble, et si on a un qui est abattu, c'est un trauma à vie dans cette famille. Et on s'identifie à ça. Enfin, comment on peut ne pas s'identifier en disant, moi, si on abattait quelqu'un de ma famille, si justement c'est des animaux qui sont capables de se reconnaître entre eux, même après des années, etc., et qui pleurent leur mort, et donc aujourd'hui on a un combat qui est un petit peu des fois moralement compliqué, parce que c'est pas ce qui est forcément mis au devant de la scène, le braconnage, et bien sûr qu'il faut que ce soit défendu. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui on se heurte plus en fait à des locaux, à des traditions et à des politiques qui se disent comme on a de toute façon suffisamment d'éléphants dans notre pays, bien que à l'échelle du continent ce soit absolument pas le cas, hein, l'éléphant est une espèce en danger d'extinction. Mais du coup on a un combat qui est un peu particulier, qui isole parfois, parce que c'est vrai que comparativement à d'autres espèces qui sont vraiment en nombre très critique, vraiment très menacé. L'éléphant a pas tout à fait ce statut-là. Ici, tu traverses pas une réserve, tu peux pas ne pas voir d'éléphant, c'est impossible. C'est vraiment une espèce qui est très présente et ça, on le nie pas. Mais par contre, il faut qu'on se batte pour justifier de son intérêt dans l'écosystème. Aujourd'hui, enfin, le parc national Kruger, qui est pas très loin à côté, a pratiqué pendant longtemps l'abattage. Donc voilà, quelqu'un en hélicoptère et ils vont abattre plusieurs dizaines d'animaux d'un coup pour réduire le nombre, réduire soi-disant cette pression que les éléphants ont sur l'écosystème. Et aujourd'hui, le combat des chercheurs avec qui je travaille, c'est de démentir tout ça en disant mais on est en train de survivre avec les 12% restants d'une population qui est en train de s'éteindre. Il faut penser à ouvrir, enfin à faire tomber les clôtures, à protéger les éléphants en dehors des parcs, puisqu'aujourd'hui, la superficie qui leur est allouée n'est pas suffisante. Donc c'est un combat, on va dire, qui est pas des plus médiatiques, parce que voilà, c'est moins sanglant, et puis parce que aussi voilà, on se heurte à des traditions et à des choses qui sont ancrées très localement, et du coup ouais, c'est compliqué. Donc en fait oui, c'est pourquoi pas l'éléphant, parce que finalement il a quand même besoin de soutien malgré ses 6 tonnes, quoi. Donc non, je suis contente, je me sens chanceuse d'étudier cette espèce là mais c'est vrai que par respect pour toutes les autres espèces de la planète, j'arriverai pas à te dire qu'est mon préféré.
Très bien, ouais, super réponse. On arrive tout doucement à la fin de ce podcast. On a déjà couvert pas mal de choses. Est-ce qu'il y a des choses que tu aimerais rajouter par rapport à tout ce qu'on s'est dit déjà?
De croire en ses rêves, je crois, parce que si je fais un petit peu d'introspection, enfin ce que je fais déjà depuis un moment avec toi. Mais si on fait un peu d'introspection, c'est quelque chose qui m'a animée depuis toujours. Et du coup, d'être là aujourd'hui, je touche du doigt mon rêve. Je pense que j'ai encore un bon bout de chemin à faire. Peut-être qu'un jour, ça me ramènera en France. J'adore mon pays aussi. Mais je crois que, mais ouais, croire en ses rêves et de pouvoir pas avoir de regrets dans sa vie et de se dire, j'ai tenté et puis j'ai apporté ma contribution à un moment donné. Je trouve que c'est et je suis chanceuse d'avoir. Et je pense que si j'avais pas eu cette casquette de vétérinaire, je suis pas sûre qu'aujourd'hui je serais là où je suis. Peut-être si j'avais poursuivi en tant que biologiste, peut-être que je serais là aussi. Mais comme quoi, il y a pas de chemin linéaire. Et moi j'ai souvent eu un peu souffert du syndrome de l'imposteur. Notamment, t'es véto, mais tu fais pas de pratique, alors, t'es plus véto. Enfin, ce genre de choses, et moi, ça me touchait profondément, parce que aujourd'hui, je sais pas, véto, j'ai beau pas pratiquer, c'est mon ADN, quoi. Si on me dit, tu fais quoi dans ta vie? Je suis véto. Et pourtant, j'ai pas de bistouri, j'ai pas de stéto autour du cou. Mais pour l'instant, ça reste encore la carte de visite et dont je suis super fière. Et même si aujourd'hui, je suis plus apprenti chercheur biologiste. Mais je pense que j'aurai toujours cette fibre, et donc croire en ses rêves, je crois que, et puis de se donner une chance, parce que moi c'est vrai que je pense que je me suis beaucoup empêchée toute seule. Des fois on te pousse pas forcément, c'est vrai, mais c'est vrai que souvent j'étais mon propre frein, et j'ai eu la chance d'être entourée par ma famille et mes amis qui eux par contre m'ont donné ce coup de pied aux fesses que j'avais besoin. Donc, des fois, faut pas trop s'empêcher, quoi. Pas trop s'empêcher. Mais plus facile à dire qu'à faire, je le sais.
Ouais. Et si t'avais une phrase, alors, à dire à la jeune Jennifer, là, qui sort d'études, tu lui dirais quoi?
Change pas. Change rien. Parce que, même si j'ai fait beaucoup de circonvolutions, de détours, etc., c'est aussi ma manière à moi. J'aime pas m'imposer. Et peut-être que j'aurais pu être là où je suis ou là où je serais plus vite, mais aujourd'hui je suis tellement satisfaite des gens qui m'entourent que je suis contente que le chemin il ait peut-être été un peu lent, parce que j'ai pu citer certaines de mes mentors. Je fais le récap aussi, c'est beaucoup de femmes, mais que ce soit au travers d'APFOM, que ce soit au travers de ma tutrice quand j'étais à l'internat, que ce soit celle qui m'a aidée. Qui m'a appris à faire ces autopsies de vautours. C'est des inspirations. Donc, je pense que des fois c'est bien que le chemin soit pas trop court, quoi, qu'on n'arrive pas trop au but rapidement. Donc, je dirais crois en toi quand même, peut-être un petit peu plus, mais change pas grand chose puisque la route est belle, quoi.
Très bien dit, très joli. Et on salue au passage, du coup, toutes ces belles tutrices que tu as rencontrées.
Elles se reconnaîtront. Ouais,
on leur fait un gros plein d'œil, en tout cas. Ouais. Écoute, merci beaucoup. Alors, je sais, tu m'as dit que si les personnes, nos auditeurs qui sont intéressés par le sujet, peuvent te contacter par email, bah, ils peuvent nous contacter directement, hein, et chez Vetomicro, oui. Et on leur enverra tes coordonnées. Comme ça, on fera une mise en relation. Merci infiniment pour ce beau moment d'échange. J'ai appris plein de choses. C'était très chouette. Donc merci. Voilà, tout simplement.
Merci, merci pour ton écoute, merci pour l'opportunité, et puis bon vent à tout le monde. On fait un beau métier.
Merci d'avoir écouté cet épisode de Vetomicro. Si le cœur vous en dit, partagez-le à vos amis et à vos collègues, abonnez-vous au podcast et mettez-nous une note de 5 étoiles avec un gentil commentaire. C'est ce qui nous permet de remonter dans les classements et de donner de la voix à la profession. Si vous souhaitez participer à Vetomicro, nous suggérer des invités ou tout simplement nous écrire, faites-le sur l'adresse podcast@temavet.fr. Prenez soin de vous et à la semaine prochaine pour écouter une nouvelle façon d'être vétérinaire.